Ne pas consommer de chair animale ou de produits animaux dérivés, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, à travers juste l'excuse, on va dire, de la modernité, du prisme occidental, etc., de faire ça quand on est dans des pays riches. Au contraire, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est extrêmement démocratisé.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Vous les avez forcément vus ces dernières années fleurir dans les grandes métropoles occidentales, de Paris à New York, en passant par Amsterdam, Londres, mais aussi des villes dynamiques comme Bordeaux ou Lyon. Les épiceries bio et en vrac et les cafés proposant des plats végétariens et véganes sont de plus en plus nombreux, avec leurs murs blancs, leurs bocaux remplis de graines, leurs étagères en bois et leurs plantes suspendues. Alors, on peut sourire face à cette esthétique si communément partagée, ces ambiances blanches, lumineuses et sobres, mi-récup naïve, mi-magazine de déco. Mais ces nouveaux lieux ouvrent aussi à une plus grande diversité dans les offres alimentaires. Désormais, s'alimenter sans chair animale et produits d'origine animale est plus simple qu'auparavant. Et pour cela, d'ailleurs, il n'est même plus obligatoire de pousser la porte d'un commerce spécialisé, puisque même les grandes surfaces s'y sont mises, avec leurs rayons en vrac et les steaks de soja désormais proposés par des grandes marques de l'agroalimentaire, également connues pour leur jambon sous vide. Depuis 2015, le marché mondial des produits végétariens et véganes ne fait qu'augmenter, avec une croissance moyenne de 8% chaque année. Selon l'Institut d'études Xerfi, cet intérêt exponentiel s'explique par un faisceau de constats, parmi lesquels la multiplication des scandales alimentaires, la remise en cause des bienfaits supposés du lait et de la viande, ou encore la sensibilité accrue au bien-être animal. Tout cela a poussé les Français et les Françaises à être toujours plus nombreux à se détourner des produits carnés au profit des protéines végétales. Sous les projecteurs de la scène culinaire médiatique, le végétarisme, le fait de ne pas consommer de chair animale, et le végétalisme, le fait de ne pas consommer de produits d'origine animale comme le miel et le lait, sont présentés comme des préoccupations modernes, adossées tantôt à une attention écologique, tantôt à une volonté éthique d'être au monde et de respecter le vivant. Mais ce n'est pas tout. En plus du végétarisme et du végétalisme, on peut inclure par extension le véganisme, qui est un mode de vie tout entier et qui, au-delà de l'alimentation, exclut tout produit issu de l'exploitation des animaux, par exemple dans les vêtements et les cosmétiques. Bref, des choix de vie engagés. Dans l'imaginaire collectif, ces régimes alimentaires sont largement considérés comme une préoccupation moderne, associée à des personnes citadines, écolos, perçues comme bobos, intellos et aisés. En effet, si l'on regarde les vitrines des centres-villes, les magazines et les réseaux sociaux, il est tentant de penser que le végétarisme et le véganisme sont des engagements contemporains, essentiellement portés par des citoyens et citoyennes éclairés. Pourtant, végétarisme et végétalisme ne sont pas nés au XXIe siècle. Ils ne sont pas non plus l'apanage de l'Occident. Dans cet épisode, vous entendrez Charlotte, alias mangeuse d'herbe, qui se décrit comme activiste afro-végane. À travers son travail, Charlotte souhaite montrer que ses ancêtres n'avaient pas de la viande à tous les repas, et donc que cuisiner végane et traditionnel n'a rien d'un sacrilège. Selon elle, il est urgent d'enrichir l'imaginaire végane d'horizons jusqu'alors invisibilisés. Avec ses origines antillaises et françaises, Charlotte tient beaucoup à la transmission des traditions afro-descendantes. Mais avant ça, vous entendrez l'anthropologue suisse Laurence Ossipo. Cette chercheuse en sciences sociales est spécialiste du végétarisme. Je lui ai posé une seule question, simple et claire. S'abstenir de manger de la viande, est-ce une idée moderne ?
Dès l'Antiquité grecque, on trouve des références et une mobilisation pour une forme de végétarisme chez Plutarque. On trouve ça aussi avec les orphistes, dans l'orphisme. Et si on regarde les travaux, par exemple, de Marcel d'Étienne, ben, il nous explique bien que Plutarque effectivement, voulait promouvoir le végétarisme, mais pas non plus s'exclure de la cité. Ce qui fait qu'il promouvait surtout l'abolition des sacrifices animaux qui faisaient qu'après on mangeait la viande. Mais lui, il voulais pas promouvoir un végétarisme qui l'aurait exclu de la cité, comme je viens de dire. En revanche, les orphistes, eux, étaient fermement végétariens et dans le fond, ça leur était égal, c'était plus une secte si on veut, ça leur était égal d'être des dissidents par rapport à la cité. Après, dans les propos des végétariens, on trouve des propos sur les Esséniens, c'est-à-dire aussi une sorte de groupe qui aurait vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors eux aussi, c'est un grand modèle qu'on met en avant. Ensuite, plus concrètement, alors là, on a beaucoup de traces, on a des mouvements très importants au 19e et au 20e siècle, en Europe en particulier. Donc, je vois comment le monde s'est réapproprié, enfin l'Europe s'est réapproprié le végétarisme. Alors, on a les mouvements théosophiques, en Grande-Bretagne en particulier. En 1847, on a la fondation de la société végétarienne, en anglais végétarianisme, qu'on traduira après justement par vegan en français, mais c'est pas tout à fait juste. En Suisse et en Allemagne, et là il y a des travaux, beaucoup de travaux qui se sont faits, on a tout un mouvement entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle de Lebensreform, réforme de la vie, qui prône en même temps que le végétarisme, c'est pas toujours un végétarisme strict, le naturisme, l'hygiénisme, il y a le fameux Bircher Müsli de Maximilien Bircher Binner, il y a les produits Kneipp qui sont plutôt des produits, ça c'est en Allemagne, qui sont plutôt des produits de soins. Et puis c'est toute une époque où ces mouvements de Lebensreform aussi en étant parfois relié au national-socialisme ou parfois relié à l'anarchie. Hein. Par exemple, en Suisse, on a un endroit qui s'appelle le Monte Veritas, c'est au Tessin, où il y a eu un croisement de tous ces gens qui venaient faire de l'hygiénisme, du naturisme, des formes de yoga et qui mangeaient végétarien, suivant les gens. C'était plutôt une réunion de gens, on va dire, aisés, mais se voulant quand même un peu machinaux. Et puis, dans les années 68, que vous connaissez bien aussi, on a un végétarisme qui est porté par les hippies, qui est porté par ces réformateurs-là. Et puis là, apparaissent dans les années 80 aussi des bouquins qui sont très… où on voit que l'écologie est déjà présente. Hein. Il y a l'idée de soigner sa santé, sa spiritualité, son régime, mais aussi la petite planète. Hein. Donc, il y a des argumentations en disant pour pouvoir laisser la planète survivre, il vous faut être végétarien, c'est moins coûteux que l'élevage de la viande, du genre si vous mangez des graines tout de suite, au lieu de les faire passer par un circuit qui va donner de la viande, vous allez faire du bien aussi à la petite planète. Puis 20 ans plus tard, il y a un de ces bouquins qui est republié en insistant alors vraiment sur l'environnement et la surchauffe dans le fond de l'environnement. Alors je dirais que jusque dans les années 80, l'information passe par des cours, passe par des livres, passe par des stages, passe par des restaurants, parce qu'il y a déjà des restaurants, en tout cas en Suisse, peut-être moins en France. Mais maintenant, l'information, alors il y a un bond énorme, l'information passe maintenant par les réseaux sociaux. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans les mouvements de Lebensreform, on était aussi à la recherche. Les théosophes, par exemple, aussi avaient été très influencés par les milieux indiens, hein, par les milieux indiens ou hindous, et par toute une certaine représentation de l'orientalisme. Tous ces mouvements théosophiques du 19e, 20e siècle ont été pris dans l'admiration, pas forcément du végétarisme, mais de certains mouvements religieux indiens ou hindous. Et on a adopté aussi le principe de non-violence. Hein. L'idée du ahimsa, ça, qui est typiquement indien, revient souvent. Donc, il y a cette idée d'adopter ce principe de non-violence et qui va aussi bien, suivant les chiffres qu'on mobilise, avec un principe écologique.
Comme on vient de le voir avec Laurence Ossipo, l'idée de ne pas manger de viande ne date pas d'hier. Pythagore, en son temps, défendait déjà le végétarisme. D'ailleurs, longtemps, les végétariens étaient appelés en Europe les pythagoréens. Laurence Ossipo explique aussi l'influence de l'Inde sur ce régime alimentaire, l'Inde étant le pays où le végétarisme est le plus observé dans le monde. Dans le sillage du végétarisme, c'est le végétalisme qui naît, dans une volonté de poursuivre l'effort qui consiste à éviter de consommer des produits supposant l'exploitation animale. Aujourd'hui, le véganisme est tendance dans de nombreuses communautés citadines et occidentales. Mais une nouvelle critique émerge contre le white veganism, le véganisme blanc. Sur la toile, certaines voix s'élèvent pour dénoncer l'appropriation culturelle de nombreux ingrédients, comme l'avocat, le quinoa, le beurre de cacao ou encore le tofu, devenus des produits de masse dans les supermarchés, sans que ne soient pris en compte ni leurs origines, ni les personnes à qui leur culture intensive nuit. Avec Charlotte alias Mangeuse d'herbe, vous entendrez comme l'afro-véganisme n'a pas attendu les tendances des grandes villes pour exister. Car si le mot véganisme a été inventé en 1944 par le Britannique Donald Watson, fondateur de la Vegan Society, la pratique elle-même existe depuis bien avant, par exemple en Afrique précoloniale.
À travers l'afro-véganisme, eh bien, on revient à nos racines, c'est-à-dire des racines avant la colonisation, et également, un héritage qui a été complètement falsifié, voire complètement détruit, où beaucoup de personnes pensent que c'est normal et traditionnel de consommer des produits carnés, alors qu'au contraire, dans beaucoup de pays d'Afrique, à la base, les gens ne s'alimentaient pas comme ça et étaient limite sur un véganisme religieux. Donc, c'est quelque chose qui est chez nous depuis très très longtemps, qui a été détruit par l'arrivée des Occidentaux, de la traite transatlantique, mais aussi subsaharienne, et qui a été qu'on retrouve parfois par bribes à travers la Caraïbe, par notamment la survivance de certaines traditions, mais aussi la reconnexion avec d'autres peuples exploités qui étaient eux aussi vegan. J'utilise le terme vegan qui est extrêmement moderne, hein. On va dire qu'il y avait ce type d'alimentation, végétalien du moins, comme par exemple les Arawaks, les Caraïbéens, les Taïnos, des Amérindiens qui étaient déjà là et qui avaient eux-mêmes ces mêmes pratiques. Mmh. Et donc, grâce à ça, on va dire qu'il y a certaines choses qui ont survécu. Et on va dire que dans l'afro-véganisme, on essaie de revenir, de déconstruire par l'alimentation aussi son regard et de revenir à des sources pérennes. Le terme véganisme, je l'accorde, est extrêmement moderne puisque de toute façon, il s'applique à des besoins, à une mondialisation actuelle qui fait partie de notre monde moderne. Mais c'est-à-dire que ne pas consommer de chair animale ou de produits animaux dérivés, c'est quelque chose qui est déjà qui existe depuis très longtemps. Et en effet, on va dire qu'à travers juste l'excuse, on va dire, de la modernité, du prisme occidental, etc., de faire ça quand on est dans des pays riches. Au contraire, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est extrêmement démocratisé et complètement acceptable depuis très longtemps. C'est aussi intéressant de faire un peu la lumière sur ça et pas de d'être trop derrière le prisme du pays riche qui a découvert la lumière, découvert son humanisme tout à coup, pas du tout. Ce rapport à la nature existe depuis très longtemps.
Parce que donc pendant des milliers d'années, l'Afrique centrale et orientale adoptaient déjà des régimes principalement végétariens et également donc végétaliens, avec du coup des ingrédients, donc vraiment les denrées de base, hein, les moins chères aussi, telles que le millet, le riz, les petits pois, l'okra. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces ingrédients que tu dois, toi, souvent vouloir mettre aussi en avant avec le blog que tu tiens qui présente plusieurs recettes?
En fait, moi, vraiment, c'est-à-dire que comme je suis d'origine caribéenne et plus précisément guadeloupéenne, c'est vrai que je me rapproche, on va dire, de la culture africaine, on va dire, centrale en règle générale, parce que c'est là où il y a eu le plus de déportations, on va dire également de l'Ouest, Cameroun, Voilà, vraiment tout ce qui est... Là, il y a eu de la déportation, parce que c'est là, justement, où j'ai réussi à retrouver, on va dire, dans les plats de chez moi, justement, des similitudes assez frappantes, comme par exemple le kalalou, qui est une sorte de soupe à base de feuilles de madère, qui est vraiment pratiquement la même chose que, par exemple, le Cameroun avec le ndolé, et justement ces feuilles de ndolé qui sont semblables à des feuilles de madère, des feuilles d'épinards un peu plus épaisses. On peut retrouver aussi toujours cette culture par rapport aux haricots, même au manioc. Par exemple, voilà, tout ce qui est haricots rouges, tout ce qui peut être aussi niébé, c'est aussi un type de haricot.
Les doliques à œufs noirs aussi ?
Oui, tout à fait. Et en fait, on peut retrouver ça, en fait, comme si ça avait traversé voilà, l'Atlantique en même temps, mais c'est-à-dire qu'eux-mêmes, on va dire que tout est un peu enchâssé parce que les Amérindiens eux-mêmes mangeaient beaucoup de manioc de base. Donc, c'est-à-dire que vraiment, dans certains plats, eh ben, on retrouve vraiment cette base. Et avec, par exemple, des plats, on va dire, traditionnels, comme, voilà, par exemple, le tiep, qui est tiep d'Iboudienne, qui est extrêmement connu, on voit qu'à travers même la cuisine, on ne fait qu'enlever la viande pour la remettre à la fin. En fait, on la fait un peu cuire, ensuite on l'enlève, ensuite on fait cuire tout avec les légumes, tout ce qu'il faut, la sauce, etc. On laisse mariner, après on la rajoute à la fin. Tellement, l'animal n'est absolument pas n'est pas du tout le centre du plat, contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines cultures carnées, comme par exemple en France, le bœuf bourguignon, bah de A à Z, il est dans la sauce, même avec le sang, on cuit avec le sang, etc. Alors que justement, dans tous ces plats, à chaque fois, on voit qu'il y a toujours un moment réservé. Je crois que réservé dans ce type de plat carné, c'est le maître mot, parce qu'en fait, il passe pas très longtemps, mais comme si on est vraiment habitué à voir ça, un mafé avec du bœuf, on n'imagine pas du mafé autrement, alors que tout le goût du mafé tient dans la pâte d'arachide et non pas dans le bœuf ou quoi que ce soit, quoi.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors, entre-temps, pour que ces recettes traditionnelles et véganes, tout à coup, se retrouvent forcément cuisinées avec de la viande ?
Alors, bah, faut savoir que la colonisation et l'esclavage a fait énormément de dégâts. Faut savoir que les Occidentaux et voilà, notamment les esclavagistes ont eu recours à plusieurs méthodes de perte d'identité totale, hein, pour ces peuples. Donc ça a pu être par la perte de leur coiffure, c'est-à-dire que ça faisait partie vraiment de du processus de déshumanisation, c'est-à-dire que déjà, une fois qu'ils étaient capturés, on leur rasait la tête. Ensuite, comme ça peut paraître anodin, mais c'est-à-dire que dans les anciennes cultures, en fonction de les cultures ancestrales, en fonction du type de coiffure qu'on portait, nombre de tresses, nombre de bijoux, nombre de voilà, un certain type de coiffe, on était aussi assimilé à un rang social. C'était aussi un message social. Donc là, on perd complètement le repère des codes sociaux, voilà, il y a plus trop de chefs, on va dire, on annule un peu les chefs, etc. Ensuite, on leur fait perdre leur religion, donc les religions type vaudou, animiste, ont été énormément diabolisées, voilà, semblables aux religions du diable, etc. Justement, c'est très intéressant aussi que à travers le vaudou, on parle beaucoup de relations carnées. On imagine toujours le poulet là qui est sacrifié, etc. Ça, c'est une totale invention, falsification qui a été repris, hélas, par certains en se disant ah bah ça doit être ça. Moi, mais en fait, c'est complètement ridiculus, au contraire. Et en fait, il y a eu tout ce processus de déshumanisation. Il y a aussi la perte du nom. Hein. Quand on arrivait, aussi on perdait son nom, on était rebaptisé par un autre nom. Alors, plus ou moins marrant, en fonction de l'humeur de la personne qui vous détenait en tant que meuble. Et il faut savoir que la nourriture, ça a eu aussi une grosse importance pour perdre les valeurs et aussi carrément voilà, son identité. C'est-à-dire que en ce qui concerne là, vraiment au niveau de la Caraïbe, voilà, le fait d'affamer des personnes voilà, qui étaient esclavagisées, retenues, privées, etc., et de leur montrer qu'ils avaient les pires parties du corps de l'animal, les pieds de porc, etc., c'était carrément un retournement de cerveau, mais complet. C'est-à-dire que pendant la traversée, il y a beaucoup de personnes prisonnières qui refusaient de s'alimenter de la sorte. Ils en arrivaient à carrément couper des dents pour les forcer à ingurgiter. Donc là, vraiment, je pense qu'on peut aussi beaucoup penser au gavage, voilà, parce qu'on voulait les maintenir en vie. Mais bon, clairement, les personnes africaines qui étaient déportées n'avaient pas l'habitude de s'alimenter ainsi. Et ensuite, bah, avec tout ce trauma, bah, il faut bien s'alimenter. Ils sont dans un état de survie. Et on arrive à prendre les codes de l'oppresseur. On se dit, ah bah lui, il est riche, c'est lui qui a voilà, la domination. Il te montre que c'est ça qu'il faut manger. Bah voilà, il faut manger ça. Même si beaucoup de personnes voilà, kidnappées, etc., et déportées ont été dans une lutte et ont gardé, notamment par rapport à des traditions comme les jardins créoles, les plantes médicinales, un vrai savoir sur... Bah, par exemple, quand on regarde l'état d'un jardin créole, d'ailleurs, il faudrait changer ce mot créole, il faudrait dire jardin antillais, parce que jardin créole, créole, ça correspond aux colons, donc vraiment, il y a toute une appropriation même de la survivance.
Dans le vocabulaire choisi.
Dans le vocabulaire, oui, c'est... Ça, c'est compliqué. Donc, ces jardins antillais, eh bien, étaient aussi... c'est vraiment, quand on les voit, ils sont composés d'absolument une assiette végane, protéinée, tout ce qu'il faut. Parce que, justement, ils avaient déjà ce savoir pour s'alimenter en cas d'absence de produits animaux. Mais c'est même pas en rapport à l'absence de produits animaux. C'était déjà... Là, ils savent déjà comment travailler la terre, avoir les légumes racines, comment les alimenter. Et c'est pour ça aussi, je pense, que les personnes noires ont un patrimoine aussi fort et ont pu survivre à de tels traumatismes sans que le corps soit trop abîmé. Hélas, aujourd'hui, on voit que ce patrimoine génétique est en train de se détériorer parce qu'on continue d'être dans cet état de survie. Il est grand temps qu'on revienne à notre base, parce que c'est justement, on va dire, que ça a fonctionné pendant un moment T, parce qu'on était dans un tas de survie, parce que voilà, on n'avait pas beaucoup de terres à cultiver, que voilà, il n'y avait pas de liberté, tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, vraiment ce rapport avec la soul food est quand même très dérangeant. Il va vraiment falloir passer, se rendre compte que cette soul food, c'est la slave food. Et si on veut garder, on va dire, la base de cette nourriture de l'âme, bah, va falloir un petit peu l'élever en se la réappropriant, mais réellement. Voilà.
Oui, alors c'est ce que tu écris sur ton blog. Oui, la soul food caribéenne n'est autre que de la slave food. Finalement, c'est... autrement dit, vraiment une nourriture qui est née de la survie avec les denrées les plus pauvres et les moins nutritives.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une nourriture très très bonne, on va dire, en goût, riche en goût, parce que bah, bien sûr, ça a été un peuple extrêmement créatif qui a réussi à reconstruire une autre culture avec les bribes qui restaient. Donc voilà, on peut le voir dans les danses, hein, c'est un peu les mêmes, le bélé-bélé, le roca, le léoz. Ce sont des choses qui perdurent aussi en Afrique centrale, etc. Donc c'est des choses... qui sont extrêmement fortes, qu'ils ont réussi à se réapproprier. Donc, ils ont réussi à en faire quelque chose qui est très bon, sauf que, par contre, au niveau nutritif, sur le long terme, bah, c'est extrêmement nocif. Et clairement, ça ne nous sert pas, puisqu'en plus, les personnes esclavagistes, tout ça, les colons, faisaient en sorte qu'on achète leurs denrées. Et encore aujourd'hui, on se rend compte que c'est une lutte pour les personnes des Caraïbes ou des personnes issues des pays colonisés, de retrouver la propriété de leurs terres et leur pouvoir en arrêtant de se nourrir avec les denrées occidentales, parce qu'en plus, il y a l'octroi de mer qui fait que c'est extrêmement taxé. Donc, quand même, quand on se rend compte, quand on vit sur une île comme ça, où il y a absolument tout qui pousse H24 non-stop, et qu'on est accro à des denrées venues d'ailleurs qui en plus sont hyper nocives, et vraiment temps de se réveiller à ce sujet-là et de déconstruire son esprit et surtout de s'en libérer.
Voilà. Ce que tu dis aussi, c'est que, toujours sur ton blog, c'est que certaines personnes pensent que cuisiner donc, des recettes traditionnelles avec autre chose que de la viande, c'est chercher à les moderniser. Et donc, c'est perdre leur authenticité. Et donc, toi, tu milites aussi pour qu'on se souvienne que...
Non, tout à fait. Pour moi, c'est carrément un devoir de mémoire, en fait. Hein, parce qu'en fait, au niveau même... de l'imaginaire. C'est-à-dire que ce qu'on mange aussi, ça travaille beaucoup sur notre imaginaire. Et le fait, par exemple, que les personnes noires soient toujours assimilées à des personnes mangeuses de poulet ou des choses comme ça. Et que carrément, dans l'imaginaire, beaucoup d'écrivains ont en profité pour les traiter de cannibales, alors qu'il n'y a absolument aucune trace de cannibalisme. Mais par contre, chez les Occidentaux, il y en a pléthore. Donc vraiment pour diaboliser et surtout déshumaniser ces personnes, hein, vraiment le côté cannibalisme, tout ça, ça fait partie du même processus. Et comme on peut voir un peu avec tous ces imaginaires un petit peu clichés, comme par exemple sur des personnes asiatiques qui seraient, on va dire, plus conscientes, plus travailleuses, voilà, dans l'imaginaire raciste, tout simplement. Nous, on va dire qu'on n'aurait pas trop de représentation de conscience ou même de sensibilité à travers l'animal, etc., ou même à travers la nature, alors que, bon, quand même, quand on voit rien qu'à quoi ressemble l'Afrique ou les pays où les personnes noires vivent majoritairement, quand même, le rapport à la nature est quand même... Enfin, ça saute aux yeux, quoi, quand même. Hein. Et le fait qu'en plus, dans les cultures, on se dise « Ah bah voilà, on va dire que la compassion, c'est plus chez les bouddhistes, voilà. » Alors qu'au contraire, dans nos cultures ancestrales, qui, occidentalement parlant, on dit « sont animées », donc « animistes », ça veut dire que tout est animé. Si tout est animé, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Si tout est animé, si tout est esprit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment reprendre un peu les bases et se connecter avec son ancestralité et créer de nouveaux imaginaires et les vrais imaginaires.
Comment cette réflexion elle est arrivée dans ta vie? À quel moment? Est-ce que c'est par le biais de lecture? Est-ce que c'est des films ou quelque chose, une parole dans la famille qui t'a permis de réaliser que cuisiner vegan et traditionnel, ça n'a rien d'un sacrilège?
Eh bien, en fait, moi, ça m'est venu à la base, je n'y avais jamais pensé, ça ne m'a même pas effleuré. C'est-à-dire que j'étais vraiment... voilà, vraiment pas sensible à cette cause. Je me disais amoureuse des animaux, certainement. Mais vraiment, je me disais, c'est un peu comme ça. Je me laissais un peu porter. Et un jour, j'ai rencontré une jeune femme afro-féministe, comme moi, lors d'un événement. Et elle ne mangeait pas ce qui était proposé. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne manges pas ça? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Elle me dit, ah non, moi, je ne mange pas ça. Et elle met un peu une phrase un petit peu choc en me disant, je ne me fatigue pas à venir dans des événements antiracistes et pour panafricanistes, pour soutenir la souveraineté de l'Afrique, tout en l'empoisonnant en mangeant du poulet. Donc, je me suis dit, oula, carrément, j'étais vraiment pas au fait de ça. Et en fin de compte, je me suis vraiment beaucoup interrogée et je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches et là, j'ai passé ce que j'appelle la nuit de l'horreur. C'est-à-dire que j'ai un peu visualisé à peu près tout ce que je pouvais, même s'il manquait beaucoup de choses. Par exemple, sur les œufs, je ne savais pas. Sur les poissons, je n'avais pas encore trop bossé dessus. On va dire que j'ai travaillé, j'ai cherché des vidéos, j'ai cherché des informations, notamment par exemple au poulet, notamment le poulet qu'on consomme ici. Les pires morceaux, hein, donc ça rappelle beaucoup des souvenirs d'une époque où les esclavagistes étaient rois. Bon, ça n'a pas trop changé, mais on va dire que ça s'est amélioré. Mais en tout cas, les mêmes méthodes, hein, c'est-à-dire par exemple, les pires morceaux sont reversés, conservés dans du formol, etc., et redonnés dans des pays d'Afrique. Donc il faut savoir que la conservation, c'est une catastrophe et ça empoisonne carrément les gens. Et en plus, ça fait en sorte que les gens n'achètent pas local, etc., parce que c'est extrêmement peu cher. Bref, une véritable catastrophe. Et que ce soit au niveau hygiène, c'est vraiment atroce. Et donc, le lendemain, je me suis réveillée et j'ai fait « Ah, ok, bon, stop. » Voilà, tout simplement, parce que comme j'étais déjà dans une démarche militante, pour moi, c'était très important d'essayer de bosser à tous les niveaux. J'étais déjà dans une lutte intersectionnelle de race, de sexe, de genre et aussi... mais aussi voilà, d'orientation sexuelle, etc. Donc, pour moi, c'était assez logique de devoir être efficient. Et au niveau économique aussi, ça m'avait intéressé de pouvoir agir bah, voilà, 3 fois par jour ou ne pas agir. Hein. C'est un peu le pouvoir du boycott, c'est agir ou ne pas agir. Voilà. Ne pas participer justement et ne pas engraisser, on va dire, une machine mortuaire. Voilà.
Donc, d'un côté, il y a cette critique. Et puis, en plus de l'autre, il y a aussi connecter les points et réaliser que donc, ces cuisines-là sont de toute façon traditionnellement végétaliennes.
Tout à fait. Ça, en fait, il y a vraiment... Je trouve que le véganisme, pour moi, c'est vraiment... Enfin, le véganisme, je dirais l'afro-véganisme. On va dire que le véganisme bien déconstruit, pour moi, c'est vraiment la base, on va dire, des problèmes au niveau sociétal, c'est-à-dire c'est la première pensée quand on grandit qui est hiérarchisante, c'est-à-dire qu'on nous apprend à caresser des chats et à manger en manger d'autres. Voilà, on lit des petites histoires à la ferme, on s'attache à ces animaux et on nous dit que bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est pareil. Enfin, on vit avec ce mensonge et avec cette hiérarchisation absolument sortie de nulle part bah voilà, par exemple, le cochon est stupide, on va dire, ben voilà, on va se baser sur le fait qu'il soit stupide alors qu'il a quand même un quotient intellectuel similaire à un enfant de 4 ans. Donc, et même supérieur au chien. Donc, voilà, ensuite, on va se dire, ah bah, dans telle culture, on mange bien du chat, dans une telle culture, on ne mange pas de la vache, etc. Donc, tout ça est complètement aléatoire. Et je pense que si, justement, on apprenait à considérer les vies telles qu'elles sont, et en sortant un peu de cette hiérarchisation, bah, déjà, les autres hiérarchisations sociétales et oppressives, tout simplement, seraient déjà un peu plus remises en cause, parce que je pense que toutes ces bases, que ce soit le racisme, le sexisme, sont aussi influencées par des outils d'hierarchisation complètement aléatoires et sortis de l'esprit juste d'un dominant et avec tous ces imaginaires voilà, qui créent et qui tissent ensuite une toile très très complexe et compliquée de se défaire, mais c'est possible de la détruire.
Et aujourd'hui, comment on pourrait expliquer le fait que l'afro-véganisme émerge à peine seulement dans la tête des gens? Enfin, pendant très longtemps, quand même, l'horizon du véganisme était très, très blanc.
Je pense que déjà, dans un premier point, il y a l'effort de falsification que fait l'Occident à absolument invisibiliser tous les combats que font les personnes racisées pour retrouver leur liberté, leur indépendance. Donc moi, par exemple, mon exemple favori, c'est tout ce qui est, par exemple, attrait au rastafarisme, par exemple, qui est donc déjà de base la cuisine italienne. Bah, c'est une cuisine végane et je dirais même raw vegan, donc une cuisine crue qu'aujourd'hui on entend de partout. Ah, j'ai mangé ma pâtisserie crue, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que pratiquent depuis très longtemps ben voilà, ces personnes. Il faut savoir que c'est pas anodin aussi, je tiens toujours à le préciser, que quand même le rastafarisme, hein, Marcus Garvey, issu de tout ça, de Jamaïque, a été le premier à initier le mouvement panafricaniste. Donc quand même un réveil extrêmement fort pour pouvoir reprendre ses droits, revenir aux sources et justement reprendre à peu près son mental, on va dire, son esprit. C'est pas anodin que ces personnes révolutionnaires travaillent au niveau de ce qu'ils dans leur corps aussi en même temps, puisque c'est un travail de réappropriation et aussi une manière de quitter Babylone. Il faut savoir donc qu'il y a une forte invisibilisation des personnes déjà dans le mouvement écologique, en règle générale racisées. Il y en a des tonnes, il y a des tonnes de personnes racisées qui s'expriment sur le sujet, comme par exemple en Amazonie, en France, en Angleterre. Il y a énormément d'articles notamment qui parlent de personnes racisées qui sont coupées des photos carrément pour montrer que le mouvement est complètement blanc. Donc tout ça, c'est un travail quand même d'interne extrêmement fort qui se fait depuis très longtemps et pas seulement sur la lutte écologiste.
En fait, finalement, il y a eu une très très longue entreprise d'invisibilisation des origines des alimentations végétaliennes. Et ce qui est incroyable aussi, c'est à quel point tout ça a été confisqué par un discours aujourd'hui très marketing. Oui, finalement, oui. On entend beaucoup ça, être végane, c'est associé à un militantisme de quelqu'un plutôt citadin qui serait aisé, éclairé sur cette question, aisé aussi. Alors oui. Que oui, on a et complètement coupé le pont avec, avec ces traditions.
Surtout, oui, et en fait, surtout, le véganisme a tendance, à, un peu comme avec le zéro déchet, à être montré comme quelque chose de très élitiste. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, parce que justement, je pense que déjà, on dépense beaucoup moins en étant végane, déjà parce qu'il y a moins de restos, et donc on va un peu moins s'enfiler tout et n'importe quoi. Puis même au niveau des courses, bah, voilà, parfois, moi, par exemple, j'ai pas trop baissé mon budget parce qu'on va dire bah, j'investis plus dans de très bonnes huiles ou voilà, donc on va dire qu'on investit un peu plus dans quelque chose de qualitatif. On prend soin de sa santé, soin de la planète, voilà, bien sûr, en n'achetant pas forcément tous les jours des noix de cajou, voire en n'achetant pas du tout. Moi, par exemple, je propose des recettes sans ces aliments-là, par exemple, qui peuvent être extrêmement problématiques, notamment au niveau racial, de l'exploitation raciale en Inde, etc. Et justement, c'est aussi, je trouve, redonner le fait de sensibiliser également des personnes pauvres, etc. Eh bien, c'est justement leur redonner aussi leur pouvoir économique entre les mains, justement en essayant de moins tomber malade, en ayant moins de problématiques, contrairement à voilà, ce qu'on peut faire croire. Au contraire, hein, la viande, tout ça, ça ne nous donne pas une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est vraiment très important pour ces personnes pauvres qui sont extrêmement ciblées, qui ont on va dire, des accès à des denrées aussi pas très, très bonnes pour eux, de reprendre le pouvoir, justement, et à travers un pouvoir économique, comme ça, juste un choix, bah, ça va vraiment conditionner aussi leur mental à s'extraire peut-être de quelque chose de nocif ou d'hostile, et vraiment de faire des choix qui les servent, eux.
Et puis, j'imagine aussi que en dévoilant un peu plus aussi cet héritage, donc dans l'héritage culinaire africain, ce que c'était aussi que la nourriture en Afrique précoloniale, c'est aussi du coup identifier des ingrédients qui peuvent être différents de ceux qu'on met souvent en avant justement dans ces épiceries bio très chères, où on va forcément mettre en avant tel ou tel type de tofu, tel ou de la simili-viande, enfin des ersatz de viande. C'est renouer aussi avec un imaginaire qui est en fait très très riche d'ingrédients.
Ouais, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que en tant que personne végane, racisée, parfois on peut être un petit peu acculé par toute cette pression. Oui, mais alors dans ce cas, c'est pas local. Dans ce cas, ça veut dire que donc il prend l'avion ou il prend le bateau, etc. Mais c'est vrai que pour moi, la réponse à ça, elle est assez simple. C'est-à-dire que j'essaie au maximum de manger local. Mais c'est sûr que je n'arrêterai pas d'acheter dans des épiceries dites exotiques tenues par des personnes de ma communauté. Parce que bien sûr que aussi le manger local, c'est extrêmement racialisant. Parce que les personnes, les agriculteurs, etc., ils sont tous blancs. Et donc, c'est aussi soutenir aussi l'économie de son pays. C'est aussi très important, je pense. Et en attendant que nous aussi, on prenne un peu de place dans les terres et qu'on puisse aussi cultiver, parce que c'est aussi important de manger quand même de saison. En fait, il faut vraiment un peu faire la part des choses, mais c'est vrai que voilà, quand on voit qu'aujourd'hui, des personnes blanches sont ravies de manger du foufou, etc., ça fait très longtemps que aussi on mange du fognon, ça fait très longtemps qu'on a ce type d'alimentation. Et on va dire qu'il y a un peu cette appropriation, hein, qui est toujours un peu dérangeante. À une époque, bah, ça sentait mauvais, c'était bizarre, c'était et puis maintenant, c'est très intéressant. Voilà, parce qu'il y a toujours ce côté validation. Moi, ce que je propose, c'est arrêtons la validation, arrêtons d'attendre cette validation. Il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de ce qu'il y a chez nous. Si on peut retourner au pays pour ramener des choses, c'est très bien. Et aussi faire un maximum avec des circuits courts, parce que vraiment, il y a quand même aussi l'urgence climatique qui est vraiment très, très, très importante à traiter et à tous les niveaux. Même si le véganisme, s'il pouvait devenir beaucoup plus répandu, ferait des miracles. En tout cas, peut-être pas des miracles, mais vraiment une bonne partie du travail. Voilà, ce serait vraiment très important de traiter vraiment. De toute façon, il faut être vraiment sur tous les fronts, comme sur toutes les oppressions. C'est pas à la carte, quoi. C'est vraiment un travail global.
Je trouve ce que Charlotte dit à propos du dilemme entre locavorisme et soutien aux produits d'ailleurs hyper intéressant. Sa réflexion illustre à quel point il n'y a pas une seule façon de politiser son alimentation, pas un seul levier pour manger de façon juste, pas une réponse unique et parfaite à des problématiques aussi complexes. Mais à minima, il est urgent de réfléchir à la provenance des ingrédients qui composent nos assiettes, à ce que veut dire acheter ci ou ça, ici ou là-bas, en aidant telle ou telle filière ou en visibilisant telle ou telle culture, avec respect et compréhension de l'histoire, y compris coloniale, dans laquelle l'alimentation s'inscrit. Sur ce sujet, Charlotte donne un exemple. La morue, si souvent associée aux Caraïbes, est une aberration puisqu'il ne s'agit absolument pas d'un poisson endémique des petites Antilles, puisqu'on n'en trouve que dans les grandes eaux froides telles qu'en mer du Nord ou dans la Manche. En fait, la morue est liée à la route du sel. Au XVIIIe siècle, les bateaux français vont aux Antilles pour la récolte de la canne à sucre. À leur arrivée, ils en profitent pour vider leur cargaison de morue bas de gamme afin de nourrir les esclaves travaillant dans les plantations. C'est comme ça que la morue entre dans l'alimentation des esclaves, jusqu'à faire partie du Code noir, le texte qui régule la vie des esclaves noirs dans le royaume de France. Et voilà comment la morue s'est taillée une place au soleil dans la cuisine locale, jusqu'à faire mourir le végétalisme de certaines communautés. Critiquer le véganisme blanc, c'est donc aujourd'hui chercher à montrer comment la consommation de chair animale s'est imposée comme un rapport de force colonial, mais aussi chercher à visibiliser tous les pans de l'histoire végétalienne et faire honneur à ces produits véganes du monde entier en expliquant leurs origines. Merci à Laurence Ossipo et à Mangeuse d'Herbe de nous avoir donné de leur temps pour parler de végétarisme et de véganisme. Pour poursuivre cette discussion sur le véganisme non blanc, rendez-vous vendredi à l'occasion d'une brève à propos de la cuisine bouddhique. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Charline Yao. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.